La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Dans deux minutes, il sera 7h15. C'est l'heure des voix de l'économie. François, le fondateur du cabinet de conseil en stratégie Tenzing, est votre invité ce matin.
Bonjour Éric Delannoy.
Bonjour.
Et bienvenue. Alors 10 milliards cette année, peut-être encore un peu plus d'ailleurs avec un budget rectificatif cet été. Et 20 milliards l'an prochain. Les économies budgétaires sont bel et bien lancées. Mais on s'interroge avec vous sur ce que ça dit et sur la façon dont c'est fait. D'abord, il y a la question de la cohérence des mesures annoncées qui ne sautent pas aux yeux, pour vous.
Non, qui ne saute pas aux yeux parce que finalement on n'a pas fixé le cap et que une baisse de dépenses publiques ne peut pas faire office aujourd'hui de vision économique. Donc il faudrait commencer par dire qu'est-ce que veut faire le gouvernement français plutôt que se poser la question de savoir où il va le raboter.
Il veut faire justement, mais il rabote ses propres ambitions. C'est un peu ça le problème. On le voit par exemple avec MaPrimeRénov' ou avec la voiture électrique, le leasing.
Oui, mais encore une fois, on est sur on distribue de l'argent à tout va. Le bouclier tarifaire, 85 milliards d'euros, fallait-il le faire pour tout le monde? On augmente les retraites, plus 15 milliards d'euros, fallait-il le faire pour tout le monde, sachant qu'on a beaucoup de petites retraites en France, mais qu'on a un écart considérable, plus important au niveau européen, des écarts de retraite. Donc les retraités, la majorité des retraités vivent très bien. Fallait-il le faire pour tout le monde? La taxe d'habitation, 20 milliards, fallait-il le faire pour tout le monde? Des ménages qui gagnent plus de 20 000 euros par mois, ou 10 000 euros par mois, ou 5 000 euros par mois, fallait-il que
au départ, les 10% des foyers les plus aisés devaient ne pas avoir cette suppression de la taxe d'habitation, mais c'est, je crois, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État qui a dit non, il faut que ce soit pour tout le monde, puisque égalité devant l'impôt.
Égalité devant l'impôt, néanmoins, des politiques publiques différenciées sont nécessaires pour qu'on puisse faire en sorte qu'on ait en fait une égalité, une équité de traitement. L'inflation ne touchant pas tout le monde de la même manière, il n'est pas normal que les petits ménages ou les ménages à fort potentiel de pouvoir d'achat soient traités de la même manière, qu'on aide les ménages à fort potentiel de pouvoir d'achat de la même manière que les petits ménages, que les ménages à faible pouvoir d'achat, n'est pas très cohérent et génère des dépenses publiques qui sont considérables.
Donc pas très cohérent, je vous entends, et je comprends que c'est la vision politique derrière que vous jugez pas très claire elle-même. Et d'ailleurs, on semble ces derniers jours qu'il y a commence à avoir des petites différences d'approche entre Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, l'un qui est quand même censé appliquer la politique économique de l'autre.
Elle est pas très cohérente à deux niveaux. La première, c'est que je pense qu'on a oublié l'esprit du macronisme de 2017 qui était, lui, construit sur une vision cohérente de la société, protéger les plus faibles, donner une capacité d'agir pour tous. Premier élément, où est cette vision aujourd'hui? Comment on la reconstruit? Premier élément. Deuxième élément, on veut passer de l'État-providence à l'État-protecteur. Ça ne parle à personne. L'État-providence est un acquis culturel qui s'est construit progressivement depuis le Second Empire, qui s'est parachevé après la Deuxième Guerre mondiale. Changer de paradigme, alors qu'en fait, on va faire quelque chose qui est bien pire, l'État-protecteur, vous savez.
État-providence, État-protecteur, c'est la formule de Bruno Le Maire qui est en train de vendre son livre et de préparer une candidature pour 2027. Et cette formule, dans son esprit, veut dire un peu moins de protection. En réalité, même s'il dit un État protecteur.
En l'occurrence, non. Et d'ailleurs, on le voit dans les années précédentes. La protection, il n'y a pas de limite à la revendication de la protection. Et une fois que vous donnez la protection à quelqu'un, vous ne revenez jamais sur une protection. Donc, c'est un terme en soi et c'est un mantra politique qui va vers la dépense publique. Donc, vous voyez qu'il
n'y a pas
vraiment
cohérence.
Alors
que lui, veut remettre en cause ce qu'il appelle la gratuité de tout pour tout le monde en permanence.
D'abord, la gratuité de tout pour tout le monde en permanence, elle n'est pas perceptible aujourd'hui. Ce qui est perceptible, c'est un service public qui fonctionne pas bien. Et le fait que ceux qui payent des impôts n'en ont pas pour leur argent. Donc, cette gratuité-là, en plus, elle n'est pas vraiment perceptible, même s'il est vrai que la santé n'est pas très chère en France, même s'il est vrai qu'on a une solidarité qui est très importante. Mais on parle là d'efficacité de la dépense publique pour pouvoir les baisser à travers une vision de à quoi sert l'État pour les citoyens.
La question, c'est donc, est-ce qu'on s'attaque au vrai sujet? A priori, non. À quoi pourrait-on s'attaquer en matière de dépenses publiques pour aller vers cette rationalité budgétaire qui nous manque?
Alors déjà, il y a un vrai problème de fond, c'est que des économies à court terme sont les économies qui sont les moins bien pensées. Vous savez, Paul Valéry disait que ce qui est simple est faux et ce qui est compliqué est inutile. Réussir à raboter tel poste budgétaire, ça ne conduit à rien à long terme. Donc malheureusement, il y a un paradoxe à assumer qui consiste à investir, donc dépenser, pour pouvoir baisser les impôts, pour pouvoir baisser les dépenses publiques derrière. Un seul exemple. La formation des fonctionnaires. Aujourd'hui, on estime que si on formait tous les agents publics qui sont au service des citoyens, on économiserait 15 000 postes. Pourquoi? Parce qu'on aurait des personnes qui sont plus pertinentes dans la réponse qu'ils font aux citoyens et on éviterait les réappels. Donc on voit bien que la formation, par exemple, est vecteur d'économie à moyen terme, sauf que former des gens, ça coûte à court terme. Donc investir à court
terme... Et d'ailleurs, sur la formation, en ce moment, le gouvernement va instaurer un reste à charge sur le fameux CPF, le compte personnel de formation. Si on veut utiliser son CPF, ça nous en coûtera 100 euros à chaque fois.
Voilà, enfin, on est manifestement sur une orientation qui n'est plus une orientation d'une vision de la société, mais d'un positionnement politique. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'assurance chômage, on va s'attaquer au CPF, bref, on va s'attaquer...
Peut-être aux aides à l'apprentissage.
Peut-être aux aides à l'apprentissage, bref, à ce qui fait finalement la solidarité sociale. On voit que, pourtant, quand on regarde les grandes masses, l'assurance chômage, c'est de l'ordre de 40 milliards. S'attaquer à l'assurance chômage, on ne gagnera pas grand-chose. Alors que, je le rappelle, on a des bénéfices d'entreprise qui ont atteint, dans le CAC 40 aujourd'hui, 150 milliards d'euros en progression constante depuis 5 ans.
Et donc, comment vous faites le lien entre les deux ?
Le lien entre les deux, c'est que simplement, on voit bien qu'il y a des aides aux entreprises qui génèrent des bénéfices considérables, mais pas de croissance. Et que donc, peut-être qu'il faut remettre à plat aussi les aides d'entreprise qui représentent 150 milliards d'euros par an.
Après, les bénéfices du CAC 40 sont faits en grande partie à l'étranger, pour le coup.
Elles sont faites mais oui, tout à fait. En grande partie à l'étranger, ça veut dire que vous avez une activité qui augmente. Sauf que quand on regarde les 5 dernières années, vous avez une activité du CAC 40 qui a augmenté de 24%, mais des bénéfices qui ont augmenté de 65%.
Donc c'est quoi? Il faut un petit peu moins d'aide aux entreprises?
Il faut, j'ai pas dit moins d'aide aux entreprises, mais une aide plus rationalisée.
Plus ciblée.
Peut-être qu'il faut différencier la fiscalité sur les dividendes entre ceux qui sont restés dans l'entreprise et ceux qui sont versés aux actionnaires. On va peut-être là trouver à la fois un projet politique qui consiste à investir par l'entreprise et un projet social qui consiste à favoriser la répartition de la valeur et non pas au détriment de ceux qui payent le plus, c'est-à-dire ceux qui sont au chômage.
L'un des énormes tabous là, qui n'est pas encore vraiment levé, même si Bruno Le Maire le dessine, mais plutôt lui pour sa future campagne éventuelle de 2027, c'est faut-il remettre en cause notre modèle social, nos dépenses publiques de modèle social, les retraites, l'assurance maladie, le chômage, qui sont plus élevés qu'ailleurs.
Vous savez, on a essayé de faire une grande réforme des retraites dans le premier quinquennat, ça n'a pas marché. On est resté sur une réforme paramétrique qui ne sera pas suffisante. Donc finalement, les grandes ambitions de transformation de réforme, aujourd'hui, on voit qu'elles sont très difficiles à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas mises en récit. Quand Bruno Le Maire prend la parole là-dessus, c'est comme si un directeur financier d'entreprise essayait de faire la stratégie de l'entreprise. C'est jamais un directeur financier qui motive les troupes.
Ça doit être d'ailleurs, le président lui-même dit la question de la dette, ça n'intéresse personne.
Ça n'intéresse personne, sauf que la charge de la dette a été multipliée par deux. Donc à chaque fois qu'on met 20 milliards de plus dans le paiement de la dette chaque année, c'est autant d'argent qu'on ne met pas dans l'éducation. Or, l'éducation nationale a toujours été vue comme une dépense, jamais comme un investissement. Déjà, il faudrait réussir à clarifier ce qu'est une dépense qu'on va raboter et ce qu'est un investissement pour préparer l'avenir. Donc, il faut revenir sur une vision politique de ce qu'on veut faire de ce pays.
Voilà, un peu petite leçon de politique publique et de stratégie financière aussi ce matin avec Éric Delannoy, fondateur du cabinet de conseil en stratégie Tenzing. Merci beaucoup d'avoir été ce matin dans les voies de l'économie.
Merci. Merci à tous les deux. À demain, François, pour la matinale de l'économie dès 6h du matin. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. Le président a réuni hier sa majorité à l'Élysée pour parler dépenses publiques, justement. Radio Classique, il est 7h.